toutes. Voilà. Bien, je voulais te demander avant qu'on aille plus loin, mon frère Jérôme, tu veux prier pour remettre ce message? Voilà. Eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. On se souvient qu'il y a eu une Pentecôte. C'est la Pentecôte chrétienne. La Pentecôte chrétienne ne tombe pas le même jour que la Pentecôte juive. Parce que la Pentecôte juive est fixée avec la Pâque. Hein. La Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Et la Pâque juive est à date fixe. C'est le 14 Nissan. Hein, pas un jour avant, pas un jour après. Tandis que la Pâque chrétienne, eh bien, varie. Hein. Là, c'était au mois d'avril, mais au mois de, oui, mois de mai, au mois de mars, mais ça va jusqu'au mois de début mai, hein, fin avril, même début mai. Donc ça varie, c'est parce que c'est fixé avec la lune. Je ne me rends pas dans ces détails. Donc c'est vrai que la Pentecôte change de date. Mais la chose elle-même, eh bien, est marquante parce que l'Église commence le jour de la Pentecôte. Avant la Pentecôte, il n'y avait pas d'Église. Il y avait des disciples, mais il n'y avait pas l'Église. L'Église a commencé le jour de la Pentecôte. C'est quelque chose de très important, vous savez. Après, on vous dit, oui, mais ça, c'est un point de doctrine. Mais c'est beaucoup plus important que vous le pensez, parce que la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu dans l'Église. Je voudrais lire un texte biblique qui se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16. Et nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 15. Alors, Évangile de Jean, chapitre 16, à partir du verset 5. « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Vous voyez ces paroles extraordinaires, c'est une promesse, le Seigneur Jésus a dit qu'il enverrait le Saint-Esprit. Et même il a dit une parole triste, il a dit « je m'en vais ». Et les disciples étaient tristes parce qu'il a dit « je retourne au Père, vous ne me verrez plus, je ne serai plus là ». Mais il a dit « je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit ». Et il a même dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que vous aurez le Saint-Esprit. Alors, c'est vrai qu'on est ce jour de Pentecôte où le Saint-Esprit est venu dans l'Église, au milieu des disciples. Et l'Église a été créée et s'est faite ce jour-là, parce que le Saint-Esprit est venu. C'est le Seigneur Jésus a fait une promesse à ses disciples. Il a dit, je m'en vais et je vous enverrai le Saint-Esprit. Et cette promesse est tenue. Quand le Seigneur Jésus est parti, hein, c'était l'ascension, 10 jours plus tard, le Saint-Esprit est arrivé. La promesse était tenue. Les disciples pouvaient dire, le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyés. Nous avons eu une période de 10 jours pendant lesquels nous n'avions pas le Seigneur Jésus, nous n'avions pas le Saint-Esprit. Mais maintenant, le Saint-Esprit est venu. Et instantanément, quand le Saint-Esprit est arrivé, et nous trouvons ces paroles dans le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, eh bien, les disciples sont sortis et ils ont témoigné. Et les gens ont été convaincus de péché. Ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Et Pierre a accusé, il a dit, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Et il leur a pardonné des paroles très dures. Et ils ont été convaincus de péché par le Saint-Esprit. C'était quelque chose. Ils ont été étonnés de voir des gens parler en langue. Ça les a interpellés. Mais la puissance du Saint-Esprit était là. Il y avait quelque chose de divin qui s'est passé dans le cœur de ces gens. Et il est dit qu'il y a un nombre important qui se sont convertis. Et ils sont devenus la première église, c'était les premiers chrétiens. Alors on ne les appelait pas encore chrétiens. C'était les disciples de Jésus-Christ. Hein, on disait c'est la secte des Nazaréens. Hein, voilà. Mais plus tard, on les appelait chrétiens. C'est l'Église. Et nous sommes responsables parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Quand nous avons cru, et j'aimerais bien lire un verset avec vous, c'est Romains chapitre 8, c'est la fin du verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà, c'est clair. C'est Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je peux vous dire une chose, quand j'étais inconverti, je n'avais pas la paix. J'étais dans une famille chrétienne. J'étais quelqu'un de vivable. Je ne faisais pas de bêtises, pas de grosses. J'en faisais, mais pas celles qui scandalisaient tout le monde. Je ne fumais pas, je ne buvais pas, je ne vivais pas dans la débauche, j'avais une vie très réglée, hein. Tout le monde pensait que j'étais chrétien même. Le pasteur voulait me baptiser, mais je ne voulais pas être baptisé, parce qu'au fond de moi-même, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je n'avais pas le Saint-Esprit. Alors je n'avais pas la doctrine, mais aujourd'hui je connais la doctrine, donc je sais que je n'avais pas le Saint-Esprit. Mais à cette époque, je ne pouvais pas mettre un nom sur cela. Mais je ne lui appartenais pas, parce que je n'avais pas l'Esprit de Dieu en moi. Et quand un jour, j'ai dit, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur, je veux être sauvé, maintenant. Vous savez, j'ai donné souvent mon témoignage, mais je vais vous redonner. J'étais en train de travailler sur un chantier. J'étais dans une école et le programme dans cette école, il fallait travailler sur un chantier. Donc pendant plusieurs mois, j'ai travaillé sur un chantier et on coulait un plancher. Voilà, il y avait du béton et c'est moi qui pelletais le béton. Comme j'étais costaud, alors je pouvais. On m'avait mis à ce poste de confiance. Il n'y en avait qu'un qui le faisait. Et donc tout le chantier tournait autour de cet homme qui pelletait le béton. Alors il ne fallait pas s'endormir, hein. Il fallait le manier et faire vite. Et les camions arrivaient et c'était à la pelle qu'on faisait tout ça. Bon, bref. Et puis j'étais en train de le faire. J'étais costaud, j'étais content. C'est le printemps, C'était quelques jours après le lundi de Pentecôte. C'était la semaine d'après. Et j'ai planté ma pelle et j'étais convaincu de péché. J'étais à ce moment-là. Avant, il n'y avait rien. À ce moment-là, je regardais autour de moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es perdu. Tu es perdu. C'est tout ce que tu fais pour ton salut. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas me convertir maintenant. Tout le monde compte sur moi. Mais quand je rentrerai à la maison, je me mettrai à genoux et je te donnerai ma vie. Ça fait quelques décennies, hein, parce que j'avais 19 ans. Mais encore aujourd'hui, en parlant, je suis ému. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. J'étais convaincu de péché. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et ce n'est pas que je suis plus spirituel que les autres, je n'y pensais pas. Je n'allais pas à l'église, ou même pas régulièrement, parce que je ne pouvais pas y aller. Le dimanche matin, j'étais à l'école, j'avais des cours et je ne pouvais pas. Je n'avais qu'une demi-journée de libre dans ma semaine, c'est le dimanche après-midi. Le dimanche après-midi, ben, le culte est terminé. Donc je ne pensais pas à Dieu, je ne pensais pas à ma foi, je ne pensais pas à la foi, je ne pensais pas à la Bible, je ne pensais à rien, je pensais à pelleter du béton et à être. Mais il y a eu cette conviction de péché, le Saint-Esprit a agi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. J'ai compris que j'étais perdu, que ma vie ne servait à rien, qu'elle était inutile. Ça a été un choc terrible pour moi, vous savez. Je suis arrivé dans ma chambre, je me suis mis à genoux, j'ai pleuré devant Dieu. J'ai dit au Seigneur, pardon, pardon, j'ai péché. Je suis un pécheur, un grand pécheur. Même si j'avais une vie impeccable, même si tout le monde pouvait penser que j'étais chrétien, moi je savais que ce moment-là j'étais perdu. Et j'ai fait la paix avec Dieu. Je me suis mis à genoux perdu, je me suis relevé sauvé. Et je peux vous dire, il y avait au moment où je me suis relevé, ce témoignage en moi-même qui disait, tu es sauvé. Je savais que j'étais sauvé. Au moment où je me suis mis à genoux, je savais que j'étais perdu. Au moment où je me suis relevé, je savais que j'étais sauvé, ma vie avait été en règle, que j'avais fait la paix avec Dieu, qu'il y avait quelque chose de changé, que j'étais un homme différent, que j'étais en route pour le ciel, que Jésus-Christ était mon sauveur, que je pouvais appeler Dieu mon Père, que je pouvais lever les regards vers Dieu et lui dire, « Oh Seigneur, tu m'as tant aimé, tu as donné ton Fils pour moi, pour que je puisse être sauvé et réconcilié avec toi. » C'est le jour de la Pentecôte que tout cela a été rendu possible. Et je ne me présente pas comme une exception. Je donne mon témoignage parce que c'est le mien. Je ne donne pas le témoignage d'une autre personne. Et il y a des personnes ici qui pourraient, sans être dans les mêmes circonstances, parler des mêmes faits, que le Saint-Esprit les a convaincus de péché. Il y a je me rappelle d'une dame, elle était du peuple d'Israël, elle était en train de lire l'Ancien Testament, elle lisait le Lévitique, et elle a lu « Vous serez saints, car je suis saint ». Et elle a été convaincue de péché. À ce moment-là, elle a dit « Mais je suis perdu. Dieu est infiniment saint, et moi, qu'est-ce que je suis? Une pauvre pécheresse. Je ne peux pas me présenter devant Dieu ». Et elle a été convaincue de péché à ce moment-là. Et elle a cherché qui pouvait la sauver. Et un jour, elle a rencontré Jésus-Christ comme son sauveur. On a tous des chemins différents. Et un jour, elle m'a dit, tu sais, ben, je suis sauvé. Et je sais où je vais. Et Jésus-Christ est mon sauveur. Elle avait la certitude d'être sauvée. C'est le témoignage de l'Esprit dans le cœur qui dit, tu es sauvé. Et je vais vous dire, aujourd'hui, si vous n'avez pas ce témoignage, si vous avez des doutes quant à votre salut, si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, alors ne laissez pas passer cette journée sans être sûr, sans avoir fait la paix avec Dieu, sans avoir levé les regards vers Dieu avec repentance et dire « Oh mon Dieu, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon parce que je suis coupable devant toi de tout ce que tu condamnes. » Et le sang de Jésus-Christ est le seul qui est efficace pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être réconciliés. C'est lui qui, sur la croix, a payé le prix de nos péchés. Afin que nous puissions être pardonnés, que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il ne s'agit pas de pratiquer une religion, mais il s'agit simplement de croire. De croire au Sauveur, de croire en Jésus-Christ. Ce n'est pas un Sauveur, c'est le Sauveur. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, on est perdu. En dehors de Jésus-Christ, vous êtes religieux, vous êtes même très religieux, profondément religieux. Vous pouvez réciter même des livres religieux par cœur. Hein. Il y a même des gens qui connaissent le Coran par cœur. Il y a des bouddhistes qui connaissent les mantras. Ils se les récitent. Ils sont des moulins à prière et des moulins à mantras. Et il y a même je connaissais quelqu'un qui m'a raconté l'histoire d'un Africain qui pouvait réciter le Nouveau Testament d'un bout à l'autre. Mais il n'était pas sauvé. Hein. Il connaissait l'entièreté du Nouveau Testament par cœur. Il n'avait pas besoin d'une Bible ou pas besoin d'un Nouveau Testament. Mais il n'était pas sauvé. Voilà. On peut faire des multitudes de choses chrétiennes et ne pas être sauvé. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et c'est parce qu'il a donné sa vie, son sang a coulé. Et quand le Seigneur Jésus a donné sa vie sur la croix, il est ressuscité parce qu'il a vaincu le péché, il a vaincu Satan à la croix, et il est ressuscité, il a vaincu la mort. Et il est ressuscité, il est allé auprès du Père et il a envoyé le Saint-Esprit. Tout était en 50 jours, tout a été fait pour que l'Église puisse exister, pour que le pécheur puisse tourner un regard de repentance vers Dieu et dire « Sauve-moi ». Et à partir du moment où il est sauvé, il est intégré à l'Église. Il fait partie de l'Église du Dieu vivant, de cette Église universelle qui est partout sur la terre. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Mais tu sais, je n'ai pas été dans une réunion, je crois que Jésus est mon sauveur. » Je me rappelle d'une dame, une bonne catholique, et je lui ai dit « Mais vous savez, les bonnes œuvres, les saints et tout ça. » Elle m'a dit « Mais qu'est-ce que j'ai à faire des saints? Qu'est-ce que j'ai à faire des bonnes œuvres? J'ai Jésus-Christ, ça me suffit. J'ai tourné mes regards vers Jésus-Christ et j'ai été sauvé. Et je sais où je suis, je vais. » Bon, elle m'a secoué, comme on dit. Elle est ma sœur en Christ. Lavée par le sang de Jésus-Christ, après, c'est sa religion. Et j'aimerais bien qu'elle soit plus conséquente avec la parole de Dieu et qu'elle choisisse une église où on n'adore pas des idoles et où on n'a pas le culte des morts, etc., etc. Bon, ça, c'est encore une autre chose. Mais sur la surface de toute la terre, au fin fond de l'Afrique, dans une jungle, eh bien, il y a des chrétiens, il y a des personnes qui louent le Seigneur, qui rendent grâce à Dieu et ils font partie de l'église de Christ. Et il y a des personnes qui sont bien habillées avec des costumes, cravates et tout cela. Ils sont chrétiens, ils sont nés de nouveau. Ce n'est pas une question de coutume, ce n'est pas une question de couleur de peau, ce n'est pas une question de vêtements, ce n'est pas une question d'appartenance à un niveau social ou à un groupe ethnique ou un groupe religieux. C'est Jésus-Christ qui est le Sauveur. On est né de nouveau uniquement par le moyen du sang de Jésus-Christ. Et c'est quelque chose de merveilleux et on est intégré à l'Église. Je voudrais vous lire un verset qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens. C'est au chapitre 12. C'est le verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. C'est ce que l'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a une immersion dans le Saint-Esprit. Quand je suis né de nouveau, j'ai été immergé dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a immergé, je ne peux pas dire si c'est moi qui étais immergé dans le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit m'a immergé. Voilà, c'est la chose, c'est un baptême. Et pour former un seul corps, c'est-à-dire intégré à l'Église. C'est-à-dire, il n'y a pas juif ou grec, esclave ou libre, ni homme, ni femme, ni ceci, ni cela. On est dans un seul esprit, baptisé. Il y a des mouvements qui parlent d'une expérience qu'ils appellent baptême du Saint-Esprit et qui met la confusion. Et il est vrai que dans le passé, les chrétiens ont mélangé les choses et souvent parlé de baptême du Saint-Esprit. Alors si vous lisez les livres du 19e siècle, par exemple, vous trouverez baptême du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit dont il est question là. C'est simplement quand les chrétiens acceptent que le Saint-Esprit remplisse leur vie. Mais ici, eh bien, il est dit que nous sommes baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. L'Église, c'est un corps. C'est un ensemble. Après, je sens mon individualité. Je sens ma personne. Je vois, vous vois, vous êtes tous là. Du point de vue du Saint-Esprit, nous sommes un corps. Il y a des liens. Il y a une unité. Il y a des liens que je ne comprends pas, que je ne vois pas. Je ne vois pas de lien avec vous. On ne voit pas une ramification, un nerf ou quelque chose qui passe. Mais néanmoins, la parole de Dieu nous affirme qu'il y a une communion et qu'il y a une unité entre nous. Nous sommes non seulement des frères et sœurs en Christ, et c'est vrai, nous le sommes, parce que Dieu est notre Père, nous appelons Dieu notre Père, mais nous avons beaucoup plus que cela encore. Nous avons des liens, nous avons une communion. Mais je n'ai pas un mot qui me rendrait service pour vous exprimer la chose, mais nous sommes liés d'une manière très profonde, plus sérieuse que vous pensez. C'est... Je vais vous dire quelque chose, franchement. Si vous n'êtes pas là, vous me manquez. Je peux vous le dire. Je vous aime en Christ. Hein. Je vous aime sérieusement. Hein. Je ne vous le dis pas comme ça pour ajouter une émotion dans ma prédication, mais je vous le dis sérieusement, je vous aime. Vous m'êtes précieux. Pourquoi ? Parce que j'ai le Saint-Esprit en moi qui me donne de l'amour pour vous. Et vous, vous pourrez dire la même chose pour moi, parce que le Saint-Esprit met de l'amour dans votre cœur pour moi. Il y a des liens. Si j'apprends que, je me rappelle un jour, j'avais une sœur en Christ que j'aimais beaucoup. On était très proches. Et puis un jour, elle a décidé de faire une bêtise. Une grosse bêtise. Alors je lui ai dit, je vais prier pour toi. Elle m'a dit, ne prie pas. J'ai décidé de la faire, la bêtise. Et d'aller jusqu'au bout de ma bêtise. Je lui ai dit, mais tu sais, je vais prier pour toi. Elle m'a dit, ne prie pas. Parce que, et j'ai prié. Et j'ai prié et j'ai jeûné. J'ai prié et j'ai jeûné longuement. Jusqu'à m'épuiser. C'est, je peux vous dire, j'étais au bout de moi-même, mais je n'ai pas eu la victoire. Elle avait décidé de tomber. Mais il y avait quelque chose qui m'a bouleversé, je n'ai pas pu faire autrement que de prier et de jeûner pour elle. Parce que c'est ma sœur. Elle a choisi de tomber. Elle a décidé, c'est comme ça. Mais je peux vous dire, ce n'est pas quelque chose d'étrange que j'ai pu faire cela, parce que nous sommes liés par des liens. Si mon frère ou ma sœur tombe, s'il est en danger, s'il y a... Je me rappelle avoir été réveillé en pleine nuit. Je me rappelle des multitudes de fois où je suis réveillé en pleine nuit. Et c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes ? C'est prier pour un tel, prier pour une telle. Seigneur, j'intercède, je demande pardon. Je te demande, c'est de venir à son secours. Si elle a péché, si elle est tombée, s'il est en danger ou s'il y a un problème, Seigneur, viens à son secours. Et la paix vient et je peux me rendormir. J'ai prié pour la personne qu'il fallait prier. Nous sommes liés par des liens. Si vous souffrez, je souffre. Si vous êtes dans la joie, je suis dans la joie. Si vous êtes malade, je suis malade. Si vous avez... Nous sommes liés, profondément liés. C'est le Saint-Esprit qui agit, qui fait quelque chose. Nous ne sommes pas des étrangers les uns pour les autres. Après, il est vrai que nous avons des divergences, hein. Nous ne sommes pas tous pareils, nous n'avons pas tous les mêmes opinions, nous n'avons pas tous les mêmes pensées. Et parfois, on a tendance à se dire, mon frère, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce que tu fais, je ne peux pas l'accepter. Et parfois, on est même dur, hein, on dit, non, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Mais ça n'empêche pas que les liens sont toujours là. Il peut y avoir des divergences, mais les liens spirituels, le lien qui est donné par le Saint-Esprit est toujours là. Il ne cesse pas. Mon frère, ma sœur qui tombe, qui me trouble, qui me fait que je dis non, c'est pas ce que tu fais n'est pas bien, c'est quand même toujours mon frère et ma sœur. C'est toujours la personne qui m'est chère. Et le Saint-Esprit ne me laisse pas tranquille. Si je commence à avoir de l'amertume et du ressentiment pour quelqu'un, le Saint-Esprit au fond de lui-même va me dire mais ça va pas du tout. Tu as jugé ton frère ou ta sœur, ou tu parles mal de ton frère ou de ta sœur, ou tu es en train... Il y a quelque chose du Saint-Esprit au fond de moi-même qui me dit « Tu n'agis pas droitement vis-à-vis de ton frère ou de ta sœur. » Et même, je citais ce verset, hein, hier, on parlait avec Dragana, et je lui disais, mais il y a ce verset dans le Lévitique, où il est dit « Tu ne haïras pas ton frère » au point de ne pas prier pour lui quand il tombe. Les paroles de Dieu disent, hein, c'est dans le Lévitique, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit, il n'y avait pas encore l'Église, et le Saint-Esprit était là, mais il ne faisait pas remplir ses personnes. Ce n'était pas la même relation qu'il y avait avec le Saint-Esprit. Mais à plus forte raison dans l'Église, on ne va pas se haïr les uns les autres au point de ne pas prier pour eux, pour nous. Parce que quand Dieu parle, il emploie des mots très durs. Et le mot « haine », et quand on n'aime pas suffisamment une personne, Dieu n'a pas une situation moyenne. Hein. J'aime pas, j'ai de la haine. Et il y a toutes sortes de possibilités entre les deux. Mais non. Si je n'aime pas, Dieu dit tu as de la haine. Je suis choqué. Non, tu ne pries pas pour ton frère et tu ne l'aimes pas assez au point, quand il tombe, de prier pour lui. Mais c'est parce que tu ne l'aimes pas. Et en fait, c'est assimilé pour Dieu à de la haine. C'est. Et donc, méfiez-vous. Votre indifférence, Dieu ne l'appelle pas de l'indifférence. Dieu l'appelle de la haine. Et j'ai pas envie que Dieu me dise, tu as de la haine pour le frère ou tu as de la haine pour le sœur. Non, je l'aime pas beaucoup, mais enfin, je le supporte mal. Mais la Bible dit, ben, tu as de la haine. Dieu parle comme cela. Parce qu'il y a une puissance, la puissance du Saint-Esprit, qui nous donne des sentiments profonds, qui nous donne des relations durables, essentielles, les uns avec les autres. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est divin. C'est divin. Chez l'Église, et on pourrait presque dire le chef-d'œuvre de Dieu. C'est l'Église au cours des siècles. Vous prenez la première Église, hein, celle du chapitre 2 des Actes des Apôtres, et vous poursuivez l'histoire au cours des siècles et des siècles et des siècles. 2000 ans d'histoire. Le Seigneur Jésus, les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Je bâtirai mon Église. Et nous avons ici des personnes. Je vois Marina et sa maman. Eh bien, c'était l'Union soviétique il y a quelques années. Et les frères et sœurs, nous prions pour eux. Nous avons prié pour les chrétiens persécutés en Union soviétique. Nous avions des réunions de prière pour les frères qui étaient en Union soviétique. Et nous avions des noms. Le frère un tel qui est en prison en Sibérie, et un tel qui est là-bas, et puis un tel. Et encore, comme nous prions aujourd'hui pour ceux qui sont persécutés dans les pays musulmans. Nous avons prié pour nos frères et nos sœurs. Il y a des liens. Satan a essayé d'écraser l'Église, de réduire à rien l'Église qui était, je parle de l'Union soviétique. L'Union soviétique a disparu. C'est fini. Mais l'Église de Dieu en Russie, hein, c'est plus l'Union soviétique, en Russie, ben elle est florissante. Alors qu'elle était peut-être chétive, discrète avant l'Union soviétique, aujourd'hui c'est une église forte, puissante. Elle a traversé la persécution. Et c'est ce témoignage que le Seigneur Jésus a donné. Il a cette parole certaine, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est le monde entier peut constater que l'Église de Dieu continue à exister, à durer. C'est en Centrafrique, des chrétiens ont été massacrés parce qu'ils sont chrétiens. Au Nigeria. Et vous savez, plus on persécute l'Église, et plus l'Église se fortifie, et plus elle grandit. Et même les persécuteurs, eh bien, finissent par se convertir. Je me rappelle, c'est le frère de Marina, maintenant, le nom ne me vient pas. Mais il me dit, tu sais, il y avait un espion du KGB qui était dans une église. Et il était là pour rendre compte de ce qui était dit dans l'église, parce que l'église était plus ou moins secrète, mais bon, l'espionnage finit toujours par savoir où se trouvent les chrétiens. Et alors, il a dit, ben, il a fini par se convertir. Il a accepté l'évangile, il s'est converti. Ah oui, gloire à Dieu, hein, c'est quelque chose, parce que c'est la puissance de la vérité appliquée par le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. L'Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et nous avons une puissance et une force que vous ne pouvez pas imaginer. Nous avons le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit qui est capable. C'est. Regardez ce que nous avons lu tout à l'heure. Peut-être que vous n'avez pas fait bien attention. C'est au verset 8, chapitre 16 de Jean. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Nous disons, il convaincra les âmes perdues. C'est vrai, c'est vrai. Mais je lis bien ici, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et continuons à lire, hein, au verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, nous sommes des chrétiens timorés. Je regrette de le dire. Le monde est vaincu. Le Seigneur Jésus a vaincu le monde. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu. S'il l'a dit, c'est la vérité. Je veux croire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. S'il a dit, j'ai vaincu le monde, c'est que le monde est vaincu. Il a l'air d'être vainqueur parce que nous le laissons vainqueur. Mais nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Et le problème ne vient pas de la parole de Dieu. Le problème vient de nous, de moi, qui ne vis pas suffisamment la vie chrétienne comme il faut. Je ne laisse pas le Saint-Esprit me remplir. Je suis en déficit par rapport au monde, où le monde ne prend trop de place dans ma vie, eh bien, il y a un problème. Parce que si le monde prend de la place, si j'aime le temps dans le monde, c'est parce que je ne laisse pas le monde être convaincu de péché. J'ai trouvé que le monde était pas mal, et je l'ai laissé rentrer dans ma vie. Mais le monde, il est dit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais le monde même que je laisse rentrer dans ma vie, il faut que le monde, je le mette en dehors de ma vie. Il n'y a pas aucune place dans ma vie pour le monde et pour l'esprit du monde. C'est ce qui fait la faiblesse des chrétiens. Le Saint-Esprit ne peut pas s'exprimer complètement parce que nous avons fait un pacte avec le monde. Nous avons fait un compromis avec le monde. Le monde prend de la place. Et s'il prend de la place et si nous lui donnons de l'autorité, eh bien, le Saint-Esprit, nous l'éteignons dans notre vie. Et c'est une réalité. Ce n'est pas une petite parole que je vous dis. C'est une parole solennelle. C'est une parole qui demande à ce que vous y preniez le temps de réfléchir. Mais il dit encore autre chose, et qui est aussi puissant. C'est le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Satan est vaincu. Je me rappelle un jour, j'ai eu l'occasion de parler avec le plus grand spirit qui était dans le Roussillon. Il avait une puissance, je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que le diable ne m'intéresse pas. Mais il allait dans un carrefour, il regardait une voiture, la voiture avait un accident. Il prenait une orange dans sa main et l'orange se fossilisait. Et j'ai vu les oranges qui étaient dures comme de la pierre. Je les ai vues. Et j'ai parlé avec cet homme. Et je lui ai dit, Rémi, tu es perdu. Ton maître, c'est le diable. Il a dit non. J'ai des apparitions de Jésus-Christ. Il croyait que c'était Jésus-Christ qui lui apparaissait. Je lui ai dit non, la parole de Dieu ne permet pas. On ne fait pas des choses comme ça quand on est chrétien et quand Jésus-Christ est en nous. Et quelques temps plus tard, je l'ai vu. Il m'a dit, j'ai parlé avec cet esprit. Il m'a dit, tu t'en sortiras jamais. Nous te possédons complètement. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On a prié ensemble. Il a confessé ses péchés. Il s'est converti. Il est devenu un enfant de Dieu. Et un jour, il témoignait à ses deux fils. Il disait, vous savez, mes enfants, je suis plus heureux maintenant que j'ai jamais été dans ma vie. Je peux vous dire, je ne suis pas un expert pour chasser les démons. Je n'ai jamais cherché à l'être. Mais avec une âme perdue, j'ai prié. Cette personne a confessé ses péchés, a renoncé au diable, a renoncé à ses pratiques. Et ce plus grand spirit, il est devenu chrétien. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Hein, c'est dans la première épître de Jean. C'est le diable est vaincu. Et nous n'avons pas à avoir peur de ces pratiques et de toutes ces choses. Parce que nous sommes chrétiens. Il y a quelque chose qui est en nous. Une personne, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Et nous pouvons affirmer avec des certitudes absolues que nous avons un pouvoir sur le monde et sur Satan. Et Satan essaye de vous convaincre qu'il est puissant, qu'il est plus puissant que vous. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Parce que Satan est un menteur. Il essayera toujours de vous séduire et de vous tromper et de vous amener dans le mauvais chemin et de vous faire croire que vous avez raison d'être timoré. Vous avez raison de baisser les bras et de dire, qu'est-ce que vous voulez, hein? Notre église, elle est tellement mondaine maintenant. Mais il n'y est pas temps de changer les choses. Nous n'avons pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là au milieu de nous. C'est pas lui qui met les liens entre nous? Est-ce que la parole de Dieu a cessé d'être la parole de Dieu? Est-ce qu'elle a cessé d'être la parole puissante de Dieu? La parole de Dieu, c'est la vérité. Et je préfère croire ce que dit la parole de Dieu que les sentiments que je peux éprouver. Parce que la vérité, le roc solide, c'est la parole de Dieu. Tous mes sentiments, mes impressions, mon attitude timorée, mes ceci et cela, ou l'éducation, ou les frères et sœurs qui sembleraient me dire « Mais non, mais ne crois pas, tu sais, qu'est-ce que tu veux ?» Tout ça, je ne veux pas l'entendre. Je crois à ce que dit la parole de Dieu. Et je veux lire la parole de Dieu dans son exactitude. Elle dit. Dieu a vraiment dit ce qu'il a dit. Je lis ici. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Et je peux attendre un réveil. Parce que le monde, c'est un ensemble de personnes. C'est vrai qu'il parle individuellement. Mais il peut parler aussi à une multitude. Et l'exemple, c'est que la première église, la première prédication, il y avait une foule qui s'est convertie. C'est le premier indice que le Saint-Esprit était là, à l'œuvre, et qu'il a convaincu, et qu'il a agi. Et puis, je peux vous dire, le prince de ce monde, il n'a pas de pouvoir. Il a le pouvoir que je lui accorde. Il a le pouvoir de mon incrédulité, de mes doutes. C'est là que Satan a du pouvoir. C'est dans mes doutes, c'est dans mes craintes, c'est dans mon renoncement à choisir la vraie vie, à mettre Christ en premier dans ma vie, à choisir le chemin de la volonté de Dieu, le chemin des commandements de Dieu, de la parole de Dieu. C'est si j'ai choisi un autre chemin, si je choisis l'esprit du monde, si je choisis tout ce que le monde a à offrir, je ne veux même pas en parler, mais c'est, qu'est-ce que vous voudrez? Le monde a au pouvoir sur moi, parce que je lui accorde du pouvoir. Mais je peux dire non. Et c'est la capacité qu'un chrétien a de dire non. Je choisis la vraie vie, je choisis Christ. Je choisis de marcher à la lumière. Je choisis de marcher dans l'enseignement de la parole de Dieu. Je conforme ma vie à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu que j'adapte à ma vie, c'est ma vie que j'adapte à la parole de Dieu. Et ce que Dieu a dit, il a vraiment dit. Et je veux le vivre. Et je veux le vivre pleinement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu. Parce qu'il y a une puissance extraordinaire, immense. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Est-ce que vous êtes prêt à ce que le Saint-Esprit mette votre vie à genoux et qu'il vous convainque de péché, de justice et de jugement, qu'il vous convainque de tiédeur, de négligence, de marchandage avec le monde, de compromis avec ceci et avec cela, est-ce que vous êtes prêt? Et je peux vous dire, il faut dire oui. Parce que si vous dites, hop, on verra ça demain, vous avez dit non, en fait. Parce que vous avez décidé de continuer à être des chrétiens tièdes, à être des chrétiens timorés, à être des chrétiens doubles, à des chrétiens qui ont un pied dans le monde, un pied avec Jésus-Christ. Des chrétiens qui trahissent la cause de Jésus-Christ. Oh, bien sûr, gentiment. On n'a pas, on n'est pas méchant. On n'a pas dit Jésus-Christ. Non. Mais on n'est pas à 100% avec lui. Ce n'est pas lui qui a pris prend notre vie. Nous avons choisi de vivre un compromis. Voilà. On attend. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'un jour vous soyez dans la présence de Dieu qui vous dit c'était pas une réussite ta vie. Tu aurais bien vraiment pu mieux faire. Combien de fois vous avez des élèves qui arrivent avec le carnet de notes et il y a marqué « pourrait mieux faire ». Discutent trop en classe, et trop dissipés, les têtes en l'air. Et puis on ne réussit pas parce qu'on n'est pas sérieux dans ce que l'on fait. C'est tout. Mais là, dans la vie chrétienne, c'est exactement la même chose. Si vous voulez réussir vos études pour les étudiants, si vous voulez réussir votre vie professionnelle, il faut s'y impliquer. Il faut s'y donner vraiment. Sinon, vous ne réussirez rien. Vous réussirez comme vous l'avez mérité. Vous ne réussirez pas parce que vous n'avez pas donné toute votre énergie et toute votre volonté dans ce que vous avez décidé de faire. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Si vous n'avez pas décidé de vivre la vie chrétienne vraiment à 100%, à fond, vous n'aurez qu'une vie chrétienne médiocre. Le chrétien est responsable. Vous pouvez dire beaucoup de choses. Oui, mais je suis à une époque, je suis pas bien entouré, je suis ceci et cela. Tout ça, ce sont des paroles que Dieu ne veut pas entendre. Vous êtes responsable, chacun individuellement, pour vous-même. Vous avez la révélation que vous avez. Elle est petite, elle est grande, mais vous êtes responsable pour ce que vous avez. Et Dieu ne vous jugera pas pour ce que vous ne savez pas. Mais ce que vous savez, vous êtes responsable pour le vivre et pour l'appliquer. Nous avons la parole de Dieu sous nos yeux. Si vous voulez vivre la vie chrétienne, si vous voulez la vivre pleinement, alors passez du temps. Cherchez Dieu, cherchez-le vraiment. Cherchez pour le rencontrer, cherchez pour changer ce qu'il faut changer. Je peux vous dire, il y a des moments où il faut se prendre par la peau du cou et se dire, tu vas le faire, parce que c'est la volonté de Dieu que tu le fasses. Et il y a toute cette rébellion et toute cette tendance, hein, vous savez, on est paresseux, hein, Gabriel nous disait ça tout à l'heure. On est tendance à la paresse, on est tendance à... C'est ce que j'appelle la loi de la pesanteur. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez la pesanteur est là. Et vous avez toujours besoin d'énergie pour marcher, pour vous lever le matin. Il faut toujours vaincre la loi de la pesanteur. Elle pèse, hein, elle vous attire vers le bas. Toujours. C'est comme ça. Et nous avons cette loi spirituelle, une loi spirituelle, la pesanteur, qui nous tient vers le bas. Tu ne vas pas lire la Bible aujourd'hui, tu ne vas pas passer du temps, tu ne vas pas prier, tu ne vas pas ceci. Et on a toujours besoin de vaincre et de dire non, je vais le faire parce que je veux être un chrétien, je veux aller jusqu'au bout, je veux vivre la vie chrétienne, je veux la vivre à 100%. Je veux vivre une vie chrétienne debout, je veux vivre une vie chrétienne conquérante, militante, une vie chrétienne triomphante. Une vie chrétienne victorieuse, parce que tout cela, Dieu nous l'a donné, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Il est venu à la Pentecôte et ne nous a pas laissé orphelins. Vous n'êtes pas seul, vous avez quelqu'un qui est avec vous, l'Esprit de vérité. Oh bien sûr, nous ne sommes pas toujours en train de parler de l'Esprit, mais sa présence est bien réelle, il est là. Et il nous enseigne, il nous parle. Et si vous avez une oreille suffisamment attentive, vous l'entendrez parler constamment, il est en train de parler, et de vous dire, vas-y, lève-toi, lis ta Bible, prie, intercède pour cette personne, va dans cette direction, ne prends pas ce chemin, il n'est pas bon, prends celui-là, et c'est cette petite voix, oh, vous pouvez l'éteindre, vous pouvez l'empêcher de parler, mais si vous êtes vraiment désireux de marcher avec le Seigneur, alors, n'hésitez pas, ne laissez pas cette voix parler en vain, mais suivez exactement ce qui vous est dit. Allez-y, avancez, marchez avec le Seigneur. Oh, si je pouvais avec toute ma force et toute mon énergie vous pousser et vous aider à le faire, mais je ne peux pas. Je ne peux que vous le dire. Avancez, marchez avec le Seigneur. C'est lui qui est le rocher, c'est lui qui est le Seigneur, c'est lui qui est... Vous pouvez réussir votre vie matérielle, votre vie professionnelle, votre vie tout court. Si vous n'avez pas réussi votre vie chrétienne, vous avez raté l'essentiel. Ce qui est important, c'est de réussir sa vie chrétienne. Après le reste, ça, ne le négligez pas non plus parce que vous en porterez mal. Mais mettez les choses à leur place. Il y a des priorités et c'est le Seigneur qui doit prendre la première place. C'est lui qui doit être le Seigneur. Et vous avez besoin, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, il y a quelqu'un qui est là, vous n'êtes pas orphelin. Et le Seigneur Jésus l'a dit. Alors à la Pentecôte, il s'est passé quelque chose, et il peut se passer quelque chose dans votre vie. Et je souhaite que l'année prochaine, à la Pentecôte de nouveau, je dirais, il y a quand même un progrès qui s'est fait dans ma vie. Il y a eu un changement. J'ai décidé que ma vie ne serait plus la même. J'étais un chrétien médiocre. J'ai décidé d'être un chrétien victorieux, un chrétien triomphant, un chrétien qui gagne des victoires, un chrétien qui compte, un chrétien qui a sa place dans l'Église comme membre, un membre actif, un membre zélé, consacré. C'est quelque chose, vous savez, de merveilleux que de pouvoir prendre ses décisions et de dire « j'avance, quoi qu'il arrive ». Alors, bien sûr, Satan vous a parlé, hein, vous a dit que ce n'était pas possible. Bon, mais comment je vais faire ? Hein, c'est la première chose, il vous dit, oh, ben, tu vois bien, c'est pas possible. Eh bien, je vais vous dire, si vous voulez aller à pied je prends de ce point-ci à la tour Eiffel, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? De faire le premier pas. Je ne vous demande pas de faire le second, Faites le premier. C'est de celui-là qui compte. Le deuxième, eh bien, vous le ferez après le premier. Mais il s'agit toujours de faire le premier pas. Et c'est ce pas qui compte et qui est dur à faire. Et de dire, je cesse d'être un chrétien médiocre, un chrétien tiède, un chrétien timoré. Je veux vivre être un chrétien qui vit à 100% la vie chrétienne. Et c'est vrai, ça c'est pas facile. Qui vous a dit que c'était facile? Pas moi. C'est très difficile. C'est un combat. C'est une lutte. Le Seigneur Jésus l'a dit, hein, un peu plus loin et, ou un peu avant, je ne m'en rappelle plus. Il dit, je vous laisse comme des brebis au milieu des loups. Les brebis, ils mettent les loups en appétit. Hein. C'est de la proie, c'est de la nourriture pour un loup. Mais c'est pour dire, c'est pas facile. Il a dit, vous excluerez des synagogues et vous aurez des problèmes et ce sera difficile. Il a dit, c'est difficile. Eh bien, c'est difficile. Mais vous avez passé des examens, vous les avez réussis. C'était facile? Non. Vous avez fait des études? Elles étaient faciles? Non, c'était difficile. Vous avez un doctorat, vous avez un bac, vous avez ceci ou cela. Vous avez... C'était pas facile. Il a fallu s'y accrocher, il a fallu se battre, il a fallu réussir. Ben vous avez réussi parce que vous êtes acharné. Eh bien, la vie chrétienne, il faut se battre, il faut lutter. Et ce n'est pas, c'est comme ça, c'est la loi de la vie. C'est, il y a une vie spirituelle et c'est la loi de la vie spirituelle. Il faut avancer. Voilà, je vais arrêter là. Mais ce que je vous dis, vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est là. Et vous pouvez compter qui va vous guider, qui vous conduira et qui vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir. Seulement, il faut que vous le vouliez vraiment. Le Seigneur Dieu avait dit, hein, je me laisserai trouver par vous quand vous me chercherez de tout votre cœur. Si vous ne le cherchez pas de tout votre cœur, si vous cherchez pour ne pas trouver, eh bien vous ne trouverez pas. Il y a des personnes qui cherchent pour ne pas trouver. Hein. Mais, surtout le travail. Mais c'est comme ça, quand on veut marcher avec le Seigneur, eh bien on décide de le faire. Et on le fait. Et on avance.